Je suis née en 1974, donc j'avais 3, 4 ou 5 ans quand les premiers Italiens sont arrivés sur le territoire français. Je suis avocate depuis 2001 et j'ai le souvenir ému aujourd'hui de l'indignation authentique d'un confrère que j'ai beaucoup admiré lorsqu'en 2009 le décret d'extradition a été signé. C'était Éric Dupond-Moretti, que je côtoyais à l'époque et qui était profondément choqué par ce qui était en train de se passer. Et moi, qui étais une toute jeune avocate, je me souviens même avoir pris quelques notes à ce dîner parce que je trouvais que son argumentaire était assez pertinent et avoir ensuite travaillé la question. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Je pense à ça parce que j'écoutais les uns et les autres et je me disais aussi qu'il ne faut pas penser que cette révolte ne concerne qu'une génération d'avocats, de militants, de citoyens. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois que j'ai pris le temps d'expliquer à mes stagiaires, à mes collaboratrices, à mes collaborateurs, à deux jeunes confrères qui prêtaient serment, l'histoire des asiles italiens, véritablement, à chaque fois, il y avait une incompréhension, une indignation et un immense sentiment d'injustice et de gâchis. Et ça n'a pas été compliqué l'année dernière de réunir des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeunes confrères pour signer une très jolie tribune dans le journal Le Monde et s'indigner du traitement réservé aux asilés italiens. Et c'est important, parce que vous disiez tout à l'heure, il y a des petits-enfants, il y a des enfants, mais il y a aussi une histoire de ce traitement qui marquera au fer rouge des militants, des avocats et des gens qui n'oublieront pas ce qu'il s'est passé. J'ai tendance à en passer à l'imparfait, parce que j'espère évidemment que la chambre criminelle de la Cour de cassation va confirmer les décisions de la chambre de l'extradition, et je ne veux pas essayer de penser autrement. J'ai écrit un livre qui s'appelle Éloge de la prescription, et je sais que c'était pas du tout à la mode de faire l'éloge de la prescription, mais j'ai consacré dans ce livre un chapitre à ça, aux asilés italiens, au sort qui leur était réservé. Et pour mieux travailler cette histoire, j'ai rencontré l'un d'eux et puis certains d'entre eux. Et ça a été un véritable honneur pour moi d'avoir compris, d'avoir travaillé et d'avoir approfondi cette question. En fait, la prescription, et on l'oublie tout le temps, c'est un principe fondamental de lutte contre l'arbitraire. À l'aune où le populisme pénal, aujourd'hui partout, et pas seulement en Italie, ne cesse de progresser, de ronger nos démocraties, la prescription est un principe fondamental qui doit être sauvegardé, même s'il est aujourd'hui à l'agonie. Je réfléchissais il n'y a pas très longtemps, et encore une fois, je me suis dit que toute mémoire n'était pas nécessairement vertueuse, et que l'oubli aussi doit avoir sa place, et que la mémoire doit servir à oublier. Et qu'à mon avis, la mémoire est le plus bel instrument pour réussir à oublier ou à ranger quelque part quelque chose qui devait être rangé. Je vous dis ça parce que moi j'ai évolué finalement dans une société hypermnésique. J'ai évolué dans une société où on ne cesse de perpétuer le mal qui nous a été fait, ou en tout cas de perpétuer le lien, ou en tout cas de poursuivre éternellement, de vouloir poursuivre éternellement. Cette société-là, à mon humble avis, ne répond à rien sauf à une volonté de laisser s'ancrer la haine. Parce que je pense que la haine est la pire des aliénations. Et je crois qu'à un moment donné, la société victimaire crée ça, de la haine. De la haine et donc de l'aliénation. Dans notre petit milieu franco-français, parfois artistique, s'agissant de la prescription, on le sait, on voit aujourd'hui des enquêtes préliminaires ouvertes sur des faits prescrits. Parce que la société victimaire l'impose, parce que la victime en a besoin. On voit une réforme s'engager dans une course à l'imprescriptibilité en considérant qu'il faut évidemment poursuivre en cascade. Et puis dans mon bouquin, je commence à calculer, je me rends compte qu'une personne victime à 20 ans peut poursuivre jusqu'à ses 98 ans grâce à ces réformes-là. Donc la réalité, c'est que la prescription devient l'exception. Je dis tout ça parce que, en fait, avec de telles réformes, si on va jusqu'au bout de l'imprescriptibilité, si on va jusqu'à la fin de la prescription, d'abord, on va poursuivre sans preuve, et la souffrance deviendra la preuve de l'infraction commise. Ça, c'est la prescription de l'action publique. Puisque déjà, on entend, mais certes, c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, il n'y a plus de preuves. Mais pourquoi le dirait-il, le dirait-elle, si c'était pas vrai? Et là, la souffrance suffit à caractériser l'infraction. Dans le cas des asiliens italiens, c'est la question de la prescription de la peine. C'est la question de la prescription de la peine et pas de la prescription de l'action publique. Et je voulais vous parler de deux procès que j'ai suivis. J'avais 6 mois de barreau à peine. Ça devait être en 2001 ou 2002. Et dont un d'ailleurs, je crois qu'il est dans cette salle. Le procès de François Besse et Henri Leclerc. C'est toi qui l'as défendu merveilleusement. Tu ne le sais pas, mais je t'ai écouté le défendre à l'audience. Et ces procès-là, 20 ans, 30 ans plus tard, ne servent à rien. Ne servent à rien parce que celui que vous jugez n'est plus le même. Parce que lorsque François Besse a commis certains faits il y a 20, 30, 40 ans, et qu'il est jugé ensuite 20, 30, 40 ans plus tard, c'est Dominique Simoneau qui l'écrivait très bien, on n'est plus dans une enceinte judiciaire, c'est autre chose. C'est autre chose et la peine n'aura plus grand sens. Parce que vous punissez quelqu'un qui n'est plus le même. Je pensais aussi à Hélène, évidemment, que tu as défendu aussi, je crois, Henri, avec le même président, et qui, elle aussi, a été rattrapée juste avant la prescription, quelques mois après, je n'ose dire quelques années après, parce que c'était vraiment quelques mois, pardon, avant la prescription, et qui, elle aussi, s'est retrouvée devant des juges 20, 30, 40 ans plus tard. Je reviens quand même sur l'Italie, évidemment, où la prescription de la peine, c'est le double de la peine prise. C'est-à-dire que si vous êtes condamné à 10 ans, la peine se prescrit au bout de 20 ans. À 15 ans, au bout de 30 ans. Si par contre vous avez pris perpétuité, eh bien là, la peine devient imprescriptible. Après avoir travaillé cette question, après avoir lu les arrêts, je me suis rendu compte qu'il y a un cas qui m'a profondément marqué. Un des asilés concernés par ces nouvelles procédures d'extradition a vu sa peine prescrite. C'était prescrit, c'était acté et c'était prescrit. Pour éviter la prescription, un juge d'application des peines italien, en plein Covid, sans son avocat, a considéré que cet homme était un délinquant habituel. Parce qu'en Italie, la seule façon d'empêcher l'acquisition de la prescription, c'est de décréter qu'un homme est délinquant habituel. Le délinquant habituel, c'est celui qui a commis plusieurs infractions pendant que le délai de prescription s'écoule. Sauf que cet Italien-là, mais n'avait jamais été condamné en Italie, évidemment puisqu'il était en France, et n'avait jamais été condamné en France, puisqu'il n'avait jamais été condamné en France. Motivation de la délinquance habituelle pour empêcher la prescription. La fuite qui perdure depuis 4 décennies et l'absence d'éléments démontrant une quelconque forme de repentir nous porte à considérer comme toujours actuelle la dangerosité sociale de X. Voilà comment on a considéré que cet homme qui n'avait commis aucune nouvelle infraction devait être considéré comme délinquant habituel pour pouvoir continuer à le poursuivre et solliciter son extradition. Cependant, la cour d'assises, elle, a constaté que les faits étaient prescrits. Parce que c'est la cour d'assises qui condamne en Italie, qui constate la prescription. Et elle a décrété, j'ouvre les guillemets, le passage du temps démontre la définitive ou la progressive perte d'intérêt de l'État à poursuivre le condamné. C'en était fini, d'un côté une délinquance habituelle, certes, mais de l'autre une cour d'assises qui disait non, c'est prescrit. Sauf que comme la délinquance habituelle de cet homme a été confirmée jusqu'à la cour de cassation italienne, eh bien, sa peine est devenue imprescriptible. Ce qui est affolant pour les gens de droit, mais pour les citoyens, pour tous, c'est de constater à quel point on peut tordre le droit, à quel point l'Italie se joue des textes qui existent, à quel point les magistrats italiens décident de faire ce qu'ils veulent des lois qu'ils sont censés appliquer. Et la dangerosité est là. C'est ça aussi le populisme pénal. C'est quand à un moment, la justice sert le politique, elle est l'instrument du politique, et là en l'occurrence, on y est. Mais quand elle devient aussi un instrument parmi ceux-là même qui sont censés l'appliquer, c'est-à-dire les magistrats. Donc évidemment qu'il y a une forme de résistance en France, et la Chambre de l'extradition a résisté. Et la Chambre criminelle de la Cour de cassation doit résister, parce que vous l'avez dit au début, l'Italie aujourd'hui fait peur. La justice italienne aujourd'hui fait peur. Je veux quand même revenir sur Alfredo Cospito, pardon pour mon accent, 95 jours de grève de la faim, ce fameux article 41 bis, le régime de détention le plus dur qui existe en Europe, carcero duro, l'isolement sévère, isolement total, caméra dans sa cellule, pas de promenade groupée et des visites limitées. C'est tout simplement le même régime que pour Salah Abdeslam avant son jugement. Voilà. Pour être bien sûr qu'on ne se suicide pas, c'est ça la réalité. Cet homme a été condamné en 2014 à 10 ans et 8 mois pour avoir blessé à la jambe le PDG d'Ansaldo Nucleare, mais mieux que ça, il a été condamné pour son implication en 2006 dans un dépôt de colis piégés qui n'a fait aucune victime à la perpétuité incompressible. Et donc, le régime de détention, pour cet homme-là, c'est le 41 bis. Et j'ai relu les chiffres en 2020 en Italie, 698 personnes sont condamnées pour association mafieuse et placées sous le régime de l'article 41 bis. Donc voilà, que la Cour de cassation résiste, comme la Chambre de l'instruction a su résister, il le faut, la justice française doit continuer à résister, mais très sincèrement, je suis en train de me dire que cette Europe qui est en train de se gangréner elle-même du pire, doit trouver face à elle des résistances, pas seulement judiciaires, mais aussi politiques enfin, citoyennes également, et évidemment militantes. Voilà. J'avais très peur, moi, de ne pas réussir à mobiliser mes jeunes confrères, mais je voulais vous dire ce soir que mes jeunes confrères, ils sont là, ils vous soutiennent, et que tous ceux qui passent au cabinet, qui viennent de prêter serment, qui ont 25, 26, 30 ou 35 ans, savent, connaissent votre histoire et en sont révoltés. Donc la justice est là à un moment donné pour résister, pour lutter contre l'arbitraire, mais il ne faut pas qu'elle soit seule et il faut qu'on la soutienne.